sexe, mais ça va, j'aime beaucoup d'écouter les annonces du pasteur. Et en écoutant ce qu'il était en train de dire par rapport à la livraison de notre bâtiment, je vois combien le défi devient de plus en plus pressant et grand. Et donc, à chacun de nous, nous savons qu'est-ce que nous avons à faire. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que Dieu nous a appelés, en fait, pour son œuvre. Et Dieu nous donne, lui qui nous appelle à son œuvre, lui aussi, il nous donne les capacités, en fait, de pouvoir faire cette œuvre. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous pouvons le faire, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons rien, nous n'avons rien. Mais c'est lui qui le fait au travers de nous. Lui, il cherche juste des personnes disposées pour pouvoir accomplir son œuvre sur terre. Mais ce soir, la bonne nouvelle, c'est que ce que je veux vous dire ce soir, c'est que nous sommes la génération de Néhémie. Et si vous voulez bien dire à la personne qui est à côté, tu es la génération de Néhémie. Parce que Néhémie nous a appelés. Non, il ne nous a pas appelés, en fait. C'est Jésus qui nous a appelés, mais au travers de l'œuvre de Néhémie, nous comprenons que, effectivement, c'est important pour nous de pouvoir nous lever. C'est très important pour nous de nous lever. Et je dirais que ce soir, je suis dans la joie pour porter ce message. Et que je crois que Dieu avait préparé d'avance. Car Dieu qui est le maître des temps et des circonstances savait que cette année-ci, nous allons construire un temple pour lui. Nous allons bâtir un temple pour lui. Et c'est pourquoi il veut nous donner une certaine approche, une méthodologie pour pouvoir le faire. C'est vrai que ce message va au-delà du temple qui sont les quatre murs. Il va aussi nous montrer combien notre corps, qui est le temple de Christ, doit être reconstruit par rapport à tous les assauts de l'ennemi, à tout ce que l'ennemi nous a fait miroiter, nous a assujettis, nous a emmenés. Et il y a des brèches. Il y a des brèches dans nos vies que nous devons colmater, que nous devons reconstruire pour pouvoir être cette race bénie de l'Éternel que Dieu veut. Le livre de Néhémie, c'était un parfait exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je vous dirai quelque chose. Néhémie n'est pas un prophète. Il n'a pas été un prophète. Il n'a pas été apôtre. Il n'a pas été... il ne travaillait pas dans l'église. Mais Néhémie, c'est une personne qui, exilée, se trouvait assise en Babylone, où il travaillait en tant qu'échanson du roi. Donc, il travaillait dans un domaine séculier où il se chargeait du vin du roi. Et nous voyons combien son œuvre a un tel impact. Et que parmi tous les livres de la Bible, il est fait mention de sa vision, sa détermination de porter le fardeau d'un pays dans lequel il n'habite même pas. Il n'habite pas à Jérusalem, il est à Suse. Mais il apprend une nouvelle, ce que nous avons appris. Il apprend une nouvelle que les murs de Jérusalem sont complètement fissuré, il y a des ruines, il y a des brèches. Et du coup, il est consterné, abattu. Il jeûne, il prie. Il veut se lever pour pouvoir construire avec ses frères. Pourtant, il y avait des personnes qui étaient à Jérusalem, pourtant, qui pouvaient le faire. Mais lui qui était au loin, il a pris à cœur de pouvoir accomplir cette œuvre. Et bien aimé, quand je vous vois encore cet après-midi, vous êtes un parfait exemple de la génération de Néhémie, parce que vous venez de loin. C'est vraiment un conglomérat de personnes qui viennent de tous les horizons, partout. Colombie, Afrique du Sud, je ne sais pas, Amérique, Centrafrique, Gabon, partout. Et je suis même certain qu'il n'y a pas beaucoup des natifs de Bussy-Saint-Georges. Je suis même convaincu de cela. Et à ce titre, si nous sommes là, c'est qu'il y a une mission que Dieu veut nous donner. Nous sommes quelque part, pas tant que ça, exilés, mais nous sommes quelque part où nous devons revoir derrière qu'est-ce qui se passe. Est-ce que dans nos maisons, il y a des brèches? Est-ce que dans nos corps, il y a des brèches? Et c'est pourquoi Dieu va nous interpeller cet après-midi. Avec l'accord du roi, Néhémie part à Jérusalem. Et ce que nous avons vu la semaine dernière, où il inspecte la muraille, sans dire, il arrive à Jérusalem sans dire un mot à ses frères qui étaient restés. Et après inspection de l'ouvrage, il décide alors de soumettre le projet au peuple qui adhère à la mission de reconstruire. De reconstruire la muraille du temple et tous décident de se lever pour bâtir la muraille. Ça, c'est le projet. Il fait un constat qu'il y a des brèches. Il prie, il jeûne et il se propose de pouvoir le faire avec les autres. Il ne peut pas le faire tout seul parce que la muraille, elle est énorme. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais avant de continuer, je veux encore prier pour que Dieu dispose nos cœurs afin de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir. Père très saint, je te bénis, je te rends des actions de grâce parce que tu es le Dieu qui nous a appelés. Tu es le Dieu qui nous connaissait, tu es le Dieu qui nous aime. Ce soir encore, tu as préparé un message. Et pour nous, parce que tu veux que nous construisons la muraille également. Tu veux que nous construisons ta maison et nous reconstruisons le temple qui a été pratiquement détruit par l'ennemi. Ô Dieu de grâce, Dieu de puissance, je voudrais me taire, mais je voudrais inviter toi, le grand roi, toi qui es assis sur ton trône, de prendre le contrôle de ce moment afin que toi, tu parles à ton peuple. Que toi, tu nous enseignes, que tu nous corriges, que tu nous transformes afin de pouvoir être cette génération de Néhémie que toi, tu veux pour nous. Tu nous as appelés pour des œuvres bonnes, mais tu veux également que nous puissions nous lever. Nous ne sommes pas là pour juste être oisifs. Nous ne sommes pas là, ô Dieu Tout-Puissant, pour assister, mais nous sommes là pour participer, parce que tu veux que nous soyons participants à l'œuvre de l'Éternel. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que ton sang nous couvre, que ton esprit prenne toute la place, afin que la gloire de Dieu se manifeste encore ce soir. Et cela au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons voir que construire, reconstruire, c'est un travail d'équipe. Et à ce sujet, nous allons prendre la parole de Dieu qui se trouve. Je n'ai pas voulu mettre les slides pour que nous puissions tous lire chacun avec la Bible ou encore être vraiment attentifs à ce que Dieu va nous dire. C'est le chapitre 3 de Néhémie. Il va nous apprendre comment reconstruire est un travail d'équipe. Je lis la parole de Dieu. du premier verset au verset 17. Et vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va se dégager au travers ce passage. Et je crois que vous allez saisir la portée de ce message. Quoi qu'il y ait un petit peu difficile, quoi qu'il y ait un petit peu, il y a beaucoup de noms, mais Dieu, au travers des lignes, il y a un petit message qu'il est en train de distiller pour tout un chacun de nous ce soir. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte de brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil, à côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte de poisson. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabel. À côté d'eux, travailla Tzadok, fils de Bana. À côté d'eux, travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Péséac et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte, la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous, les barres. À côté d'eux travaillaient Melatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissants au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, donc les orfèvres. Et à côté de lui travailla Anania, donc les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédacha, fils de Harumaf. Et à côté de lui travailla Atouche, fils de Hachamnia, une autre portion de la muraille et la tour de four furent réparées par Malkia, fils de Harim, et par Hashoud, fils de Pachat, Moab. À côté d'eux travailla avec ses fils Shalom, fils de Alochesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, Anoun et les habitants de Zanouak réparèrent la porte et la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte de fumier. Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Akirem, répara la porte de fumier. Il la bâtit en posant les bâtons, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit en posant les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Je m'arrête là pour... Je crois que vous avez saisi quelque chose qui revient. Mais j'ouvrais la parenthèse pour dire que en lisant ce chapitre, j'ai compris que Jérusalem était pratiquement bâtie comme Paris, la ville de Paris, où il y a le boulevard périphérique, et il y a des portes où nous pouvons rentrer dans Paris, la porte de Bercy, de Bagnolet, la porte de Maillot, la porte d'Orléans. Donc il y avait ces portes-là. Et la muraille était détruite, et donc il fallait réparer toute cette muraille, sans quoi l'ennemi venait pour assiéger et détruire. Et déjà qu'il y avait la désolation parce qu'il y avait des brèches, l'ennemi pouvait rentrer, faire ce qu'il voulait. Mais, je reviens à ce que je disais, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient quand je lis cette parole. C'est vrai que les noms, on ne les garde pas en mémoire. Mais il y a quelque chose, j'ai bien insisté dessus, c'est qu'il y a deux choses qui me sont apparues évidentes. La première, dans ce passage, c'est servir Dieu les uns à côté des autres. Servir Dieu les uns à côté des autres. Il n'y a pas de distinction dans l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que ce paragraphe commence par le grand sacrificateur Eliashib, souverain sacrificateur qui se lève avec ses frères pour bâtir. Le souverain sacrificateur se lève. Et au verset 2, nous voyons à côté de lui bâtir les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi. À côté. Il y a dans l'œuvre de Dieu qui nous appelle une certaine coordination. Et pas une seule personne qui peut travailler dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a mis des capacités, des dons à tout un chacun. À chacun un don, à chacun un talent. Mais là, nous voyons que tout le monde, les familles, les filles comme les garçons, même pour des œuvres, des grosses œuvres, les filles se lèvent. C'est pour dire que nous devons nous lever pour l'œuvre de Dieu. Nous devons nous lever, non pas pour nos connaissances, pour nos titres, pour notre âge, pour ce que nous représentons dans la société, mais non, tous ensemble. Et comme Néhémie avait suggéré, tous de se lever. Oh, c'est un bon clin d'œil pour cette année-ci, pour notre Église. Parce que nous devons nous lever. Tout à l'heure, le pasteur disait pour les chaises où tout un chacun peut-être va s'asseoir, il y a une œuvre à faire. Il y a toujours un besoin, il y a toujours quelque chose. Mais nous devons le faire tous ensemble, pas une seule personne. Pourquoi? Parce que dans le livre de Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, dans la version française courante que j'ai pris, il est mentionné, « Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit faire. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus » et personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit tous. Tous. En chacun, l'Esprit se manifeste par un don pour le bien de tous. Nous voyons le service est défini selon les capacités et les compétences de chacun. Tous sont utiles, personne n'est méprisé. Et tous concourent à l'accomplissement de la tâche à faire. Chacun a un don particulier que Dieu a donné. Comme un édifice bien structuré, les uns travaillent avec les autres pour le bien de tous. Chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Tous les corps de métier sont représentés dans cet ouvrage. Tous. Quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a des parfums. Il y a ceci. Tous. Et bien aimé, viens tel que tu es, c'est Dieu qui t'appelle à la mission de reconstruire. Viens, celui qui t'a appelé, il sait pourquoi il t'a appelé. Et c'est lui qui veut mettre quelque chose pour témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. Et c'est vrai que nous voyons que beaucoup de personnes sont frustrées à l'idée de servir Dieu dans l'église. Beaucoup de personnes sont frustrées. Pourquoi? Parce qu'il y a la timidité ou le manque d'assurance Parfois, ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ont quelque chose de précieux, mais ils ne le savent pas. Et s'éloignent de l'œuvre de Dieu, alors que servir Dieu ne se résout pas seulement à prêcher. C'est ce que nous croyons, que servir Dieu, c'est prêcher. Non, c'est témoigner Dieu dans ce que nous faisons, dans la joie, l'amour, la paix. C'est vrai que Dieu a mis un pasteur dans l'église, des anciens. Mais ils sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ils sont là pour juste nous enseigner comment faire l'œuvre de Dieu. Donc, quitte à nous de savoir saisir cette opportunité pour travailler. Quand bien même que nous sommes appelés, là nous voyons même, le grand sacrificateur se lève pour pouvoir travailler. Donc tous, nous devons faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu nous demande d'accueillir avec joie les frères et sœurs qui viennent pour la première fois. L'œuvre de Dieu nous demande de tenir propre nos locaux. L'œuvre du ministère nous demande de gérer les finances. L'œuvre de Dieu nous demande de visiter les malades, les personnes âgées, de garder les bébés, de s'occuper de l'école du dimanche, d'aller annoncer la bonne parole. Au-delà des dons que nous pouvons exercer dans la maison de Dieu, il y a aussi des besoins dans l'église. C'est là que Dieu nous appelle. Il y a des besoins. Balayer les locaux, ce n'est pas un don, mais c'est un besoin. Donc, tout le monde peut le faire. Je me rappelle quand on était encore dans la salle de l'autre côté, on le faisait à tour de rôle les samedis parfois tard dans la soirée. Et certaines personnes trouvent répugnant de le faire, nettoyer les toilettes. Mais pourtant, c'est de la grandeur. Quand on est en s'humilie pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu nous élève. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Sans rechigner, sans a priori. Il y a du travail dans l'œuvre de Dieu. Il y a du travail. Dieu nous appelle chacun dans son domaine. C'est vrai qu'il y a des domaines pour lesquels nous sommes très très doués. Dieu va les valoriser dans l'édification, dans la construction du temple. Dieu va les valoriser parce que c'est lui qui nous a donné l'intelligence, les capacités. Mais pour les besoins, tout le monde, bien aimé, tout le monde peut se lever pour le faire. Et bien aimé, peut-être un petit témoignage là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées dans cette église. Dans cette église, parce que la première fois qu'ils sont venus, ils ont trouvé qu'ils étaient accueillis avec amour. Juste. Un sourire par-ci, un sourire par-là. Les personnes ont trouvé ce qu'il fallait, ce qui leur manquait, l'amour, la joie. Et ils sont restés dans la maison de l'Éternel. Oh, je bénis Dieu de nous avoir donné des personnes qui le font si bien. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'accueil. Mais nous voyons que certaines personnes, ils sont restés parce qu'on les a bien accueillis. Et Dieu veut que nous puissions les servir. Et parfois, nous sortons de l'église, nous trouvons peut-être que le message nous a transformés, le message nous a touchés. Mais tout cela se prépare depuis, avant même que nous commençons, avant même que le pasteur commence le message. Il y a ceux qui viennent mettre le matériel pour que tout soit ordonné, il y a ceux qui viennent pour balayer, il y a ceux qui viennent pour faire la sainte scène, il y a ceux qui viennent, tous, ils viennent. Et c'est là où nous devons chercher à trouver notre place dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à travailler pour l'œuvre de Dieu, pour la construction de la maison de l'Éternel. Non pas seulement que nous allons travailler les uns à côté des autres. Nous voyons après, au verset 17, « Après lui ». Travaillèrent les Lévites, Réum, fils de Bani, à côté de lui travailler pour son district, Achabia, chef de la moitié du district de Keïta. Après lui travaillèrent les frères Bavaï, fils de Anadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion, la muraille, vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'ombre. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Éliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion de la porte de la maison d'Éliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Éliashib. Après lui, travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hachub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maéséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Béni, fils de Inadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle, jusqu'au coin. Palal, fils de Zaï, travaille vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillir en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, Pédaja, fils de Paréoche, le Nétinien, demeurant sur la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun dans sa maison. Après eux, Tsadok, fils, après. Dieu nous montre que notre travail ne doit pas s'arrêter. C'est vrai que quand nous faisons l'œuvre de l'Éternel, nous devons persévérer jusqu'à la réussite. Le premier groupe passe travailler, travaille les uns à côté des autres. Le deuxième groupe qui vient, il travaille après les autres. Il y a un suivi et une continuité dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui dit dans sa parole, priez sans cesse. Si nous prions sans cesse, nous devons travailler aussi pour le Seigneur sans s'arrêter. Il n'y a pas de vacances pour le travail de Dieu. Le désir de Dieu est que tout le monde vienne servir les uns après les autres. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je vais finir le message. Mais après, il y aura encore un autre travail pour faire. Nous ne voulons pas qu'une seule élite serve le Dieu. Tout le monde a sa part dans ce qui peut apporter l'édification. Nous sommes tous une race de sacrificateurs. Parce que notre sacrifice à nous, c'est d'apporter ce que Dieu nous donne pour servir les autres. Il y a un bonheur, c'est vrai, pour servir Dieu avec sa famille. Et nous voyons dans cette deuxième partie, pratiquement tous travaillent en famille. Prenez garde de pouvoir travailler avec toute la famille. Parce que si nous ne travaillons pas avec toute la famille, c'est qu'il y aura des brèches et l'ennemi pourra rentrer. Donc nous devons travailler ensemble. Et quand je vois les enfants qui servent le Seigneur dans la louange, les parents qui travaillent, je dis, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en fait, nous fermons les portes, les brèches, nous les fermons, le diable ne peut pas rentrer. Mais quand certains sont là, dans l'œuvre du Seigneur, et qu'une partie de la famille ne le fait pas, sachez qu'il y a des brèches. Le diable va rentrer. Et quand il rentre, bien aimé, vous savez, le travail du diable, c'est créer des brèches. Le travail du diable, c'est détruire. Le travail du diable, c'est voler. Il n'a pas d'autre mission, en fait. Parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu a mis en dedans de nous. Il sait ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et c'est pourquoi il vient au pouvoir écarter, diviser, pour que lui, il puisse régner.
Je rappelle, faisons attention de ne pas servir le Seigneur avec toute sa famille. C'est un danger, bien-aimé. C'est vraiment un danger. Nous devons avoir de la déférence, du respect pour les uns et pour les autres, pour les talents que Dieu met en tout un chacun. La bonne nouvelle que je veux encore appuyer ce soir, cet après-midi, c'est que de vous dire que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Il est dit dans tout à l'heure, à deux reprises, on a lu ce passage, je me dis béni soit le Seigneur, parce que j'avais même ce message, ce passage à lire. Dans 1 Pierre 2, mais moi je lirai au verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je vous le rappelle, ça c'est moi qui parle. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle grâce! Nous sommes une race bénie de l'Éternel, un sacerdoce royal. Et bien aimé, à ce titre, nous devons faire l'œuvre de notre Père, de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions prendre soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Nous sommes le corps du Christ. Et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Quelle joie! Bien aimé, nous qui sommes ce soir ici, nous sommes une race bénie. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des prêtres pour Dieu. Quelle grâce! Ne vous sous-estimez pas. Ne nous sous-estimons pas non plus. Parce que celui-là qui nous a appelés, il sait pourquoi il nous a appelés. La ville de Bussy est pleine d'habitants. Mais ce soir, il y a quelques-uns qui sont là. Il y a d'autres qui viennent de loin. Et c'est une grâce de savoir que nous qui avons été appelés ce soir, Dieu nous rappelle que nous sommes une race bénie. Nous sommes un sacerdoce royal. À ce titre, nous devons le servir. Bien-aimé, c'est une grâce de se le rappeler. Que nous ne venons pas juste pour assister. Nous ne venons pas juste pour contempler. Nous ne venons pas juste pour un rendez-vous avec quiconque. Nous venons pour rencontrer le Dieu qui nous a appelés, qui nous connaissait et qui a mis au-delà de nous des talents pour lui. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Je répète, ce que nous le devons à Dieu. Les capacités, les compétences que nous avons, nous le devons à Dieu. Et si Dieu les a mis au-delà de nous, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut les utiliser. À bon escient. Il veut les utiliser, ces talents que Dieu a mis au-delà de nous. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous lever, nous offrir. Au-delà du temple, au-delà de l'église que nous sommes en train de bâtir, nous devons reconstruire notre temple qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le reconstruire. Mais à cela, comment le reconstruire? En nous offrant. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12 pour que nous soyons un sacrifice saint vivant agréable à Dieu. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner l'intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bon,
ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu a m'accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns les autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il le serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec foi. L'amour doit être sincère et véritablement attaché aux liens. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et il dit encore, soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'amour. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Faire l'œuvre de Dieu requiert ses qualités. Afin de ne pas être oisif dans la mission que Dieu nous donne. Quelle grâce de savoir que toi et moi, le Créateur de l'univers, nous a choisis dans son amour pour faire partie de son projet. Nous devons nous réjouir et lui donner toute la gloire pour cet appel. Ce n'est pas un hasard que nous venons de différents milieux, de différents pays, de tous les âges pour travailler ensemble. À Dieu soit la gloire. C'est une grâce. Et ce que je veux vous rappeler cet après-midi, c'est que il y en a un. Mais je crois que on le dira assez peut-être la semaine prochaine. Mais il y en a un, je veux juste brièvement parler de lui. Il y en a un qui est l'ennemi de notre âme, qui ne voit pas de bon œil que nous soyons au service de Dieu. C'est pourquoi il viendra par des intimidations. Il ne lâche rien, lui. Il viendra par des intimidations, des peurs, des blocages, des maladies pour nous décourager. Mais sachez que notre Seigneur a été également humilié. Bien aimé, quand nous revoyons ce qui s'est passé à Gethsémané, Jésus souffrait parce qu'il voyait quel était le service que Dieu lui demandait. Quelle était l'œuvre que Dieu, son Père, lui demandait. C'était difficile dans la chair. C'était difficile dans la chair. Ses amis, est-ce qu'ils l'ont peut-être abandonné dans la prière? Parce que lui, il cherchait l'appui de ses frères. Il cherchait l'aide de ses frères. Mais il dormait cet instant. Il arrive devant le roi, devant les sacrificateurs qui l'accusent. Il était tout seul. Il part au calvaire, mon calvaire. Il était tout seul. Mais il savait qui il servait. Il savait pourquoi il acceptait ses humiliations. Il savait pourquoi il acceptait ses souffrances. Et bien aimé, c'est ce que nous devons peut-être retenir ce soir. Jésus savait quelle était sa mission, quel était l'ouvrage l'ouvrage pour laquelle il était venu. Il savait. Il savait. Mais il n'a pas lâché. Il est parti jusqu'au bout. Et bien aimé, l'ennemi va nous intimider de faire l'œuvre de Dieu. L'ennemi viendra avec des blocages pour pouvoir nous atteindre, nous attaquer. Bien-aimés, sachez que celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui nous a appelé est fidèle. Nous devons le regarder. Nous devons mettre notre confiance en lui, parce que c'est lui qui combat pour nous des combats visibles comme invisibles. C'est lui qui nous assure la victoire. Et ce soir, je voudrais vous rappeler que si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé pour le servir. Dieu ne nous a pas appelés pour venir nous rassembler pour une quelconque fête du monde. C'est vrai qu'on a autre chose à faire. Mais Dieu nous a appelés pour pouvoir le servir. Et ce soir, je vais te dire que sache que tu es important aux yeux de Dieu. Même dans ta faiblesse, dans ta petitesse, sache que tu es important aux yeux de Dieu. Tu peux passer des moments difficiles. Tu peux vouloir lâcher. Mais sache que Tobija, Sambala et les autres seront toujours là. Toujours quand quelqu'un va se lever pour servir le Seigneur, ils seront toujours là pour nous intimider. Mais bien aimé, si l'armée de l'Éternel s'était relâchée, et s'il n'y avait pas un ou un de l'Éternel que Dieu avait au moins, s'il n'y avait pas un que Dieu avait au moins pour son service, l'armée de l'Éternel allait battre en brèche, ils allaient fuir. Heureusement qu'il y avait David, qui non pas combattait avec sa force, mais vous combattez avec au nom du Seigneur. Mes bien-aimés, ce soir, je voudrais juste vous dire que vous êtes important dans l'œuvre de Dieu, que nous devons le servir les uns à côté des autres, les uns après les autres, mais que nous devons regarder celui-là qui nous a appelés, mettre toute notre confiance en lui, parce que c'est lui qui nous assure la victoire. Mes bien-aimés, à celui-là qui nous a appelés, soit la gloire. À celui-là qui nous a appelés, soit la louange. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, si encore ce soir, tu avais la peur de servir Dieu, bien-aimés, je voudrais que tu lèves ta main pour que nous puissions prier pour toi. Si tu n'étais pas encore convaincu que tu as été appelé pour servir ce Dieu, nous allons prier également pour toi ce soir. Parce que je te rappelle que ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu pouvais aller voir le golf à la télé, tu pouvais aller jouer au foot. Mais tu as pris ce temps pour venir écouter ce message. Et ce message t'est adressé personnellement. Parce que tu hésites encore, tu hésitais encore du service de Dieu. Ne crois pas que tous sont appelés à prêcher. Ne crois pas que tous sont appelés à diriger le groupe d'intercession. Ne crois pas que tous sont appelés à diriger la louange. Il y a beaucoup de services dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu, ce soir, voudrait que tu te lèves, que tu t'abandonnes, que tu acceptes cet appel. Bien-aimé, tu le sais depuis longtemps que tu as été appelé, mais tu résistais. Mais aujourd'hui, voici le temps favorable. Nous allons nous courber, baisser la tête. Et pour ceux qui veulent servir le Seigneur, qui sont intimidés, qui ont peur, je leur demanderai de lever juste la main, juste la main. Nous allons prier pour eux. Parce que Dieu est fidèle. Juste, personne ne regarde devant. Mais que celui qui a le désir, qui sait que Dieu l'a appelé pour le servir, qu'il lève la main.